Voilà, je vais enregistrer comme on fait d'habitude. Hein. C'est pas que c'est très bien ce que je dis, mais parfois il y en a certains qui aiment bien que ce soit enregistré. Alors je vais essayer de parler assez fort parce qu'il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de. Enfin, la lumière, c'est particulier. Il y a donc un an, cet enseignement, c'était plus ou moins prévu parce que était sortie cette exhortation apostolique sur la sainteté du pape François, qui est passé relativement inaperçu, pas complètement quand même, il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont lu évidemment, mais quand même, et pourtant, c'est sans doute un des enseignements majeurs de notre pape, comme à chaque fois que les papes invitent les chrétiens à vivre le cœur de leur foi, l'appel à la sainteté, voilà. Donc je vous conseille déjà de le lire, et puis moi j'utilise pour cette intervention. Alors, je vous propose qu'on se confie déjà à la Vierge Marie, hein, pour qu'elle nous aide. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, quand on voit l'état de l'Église, de cette Église, qui est en travaux, ça marche mal, on n'a pas d'électricité à la moitié des endroits, vous avez vu, c'est un peu... Bon, on peut dire l'Église n'est pas en forme, ne va pas très bien. Hein, l'Église tombe en ruine, comme c'est arrivé à d'autres périodes de l'histoire de l'Église. Et vous avez derrière moi Saint-Dominique... et Saint François, là-bas, qui ont vécu à une période aussi assez particulière de l'histoire de l'Église, où l'Église était à la fois très riche, très opulente. Il commençait à y avoir des hérésies qui commençaient à se développer, hein, c'est-à-dire des déviances de la foi, parce que le clergé scandalisait par ses attitudes, son attitude. Différemment d'aujourd'hui, mais quand même, et aussi l'ignorance qui régnait dans le clergé et chez les fidèles était tellement forte que ça prêtait vraiment à ce que finalement on quitte Jésus-Christ pour aller voir ailleurs, ou bien on déforme le message évangélique. C'était souvent ce qui arrivait le plus souvent. Et donc, que ce soit Saint François et Saint Dominique, moi je m'appelle Dominique, donc j'ai tendance à dire que Dominique aussi, ils ont eu tous les deux une vision qui disait, donc c'était Saint Jean du Latran, qui est la cathédrale du pape, qui s'effondrait, et puis Jésus qui disait « Reconstruis mon église, construis mon église ». Alors Saint François, cette vision est attestée, puisqu'il se convertissait à peine, lui qui était dans le confort de ce que la nouvelle bourgeoisie de l'époque pouvait avoir, c'est-à-dire mon père était marchand de tapis, enfin tapis dans le sens de tissu, et réussissait bien. Saint François vivait donc aisément, et tout allait bien pour lui. Et puis, bon, il vivait un peu lui-même dans l'excès, parce que bon, ses parents avaient de l'argent et tout ça, il savait qu'il prendrait la suite. Voilà. Et quand il s'est converti, donc il voit le Christ de San Damiano, hein, donc un Christ, c'est une icône hein, qu'on peut encore voir aujourd'hui, une icône où Jésus se détache de la croix et vient embrasser François. Et donc il a cette vision, rebâtis mon Église, de l'Église qui s'effondre et de rebâtis mon Église. Et de lui, qui riche qu'il était, est devenu pauvre et a choisi d'épouser Dame Pauvreté pour reconstruire l'Église. Et puis, de son côté, Saint Dominique, lui, à peu près à la même époque, lui, c'était un autre style, il était déjà clerc, il était déjà prêtre, et il était chanoine. Et lui, la même chose, il voyant l'ignorance des fidèles, voyant les hérésies commencer à se diffuser, eh bien... choisira, en épousant aussi la pauvreté, mais de façon moins visible et moins radicale que Saint François, en épousant la pauvreté, va choisir donc de, d'enseigner, de prêcher, d'évangéliser. Elle va choisir d'évangéliser par sa parole et son exemple. Il va fonder ainsi les Dominicains et Saint-François, les Franciscains. Et donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, nous ne pouvons pas ne pas penser qu'aujourd'hui, cela ne puisse pas se produire. Et même, nous avons de bonnes raisons de penser que ça se produira, puisque le Seigneur ne lâche jamais son Église. Il va toujours susciter les solutions à toutes les époques. Alors, si aujourd'hui l'Église souffre, par la déchristianisation, par les contre-témoignages à répétition, par la division, hein, parce que certainement qu'aujourd'hui, plus que du temps de Saint-François encore, Saint-Dominique, l'Église est divisée, par la division, par les multiples scandales, par nos contre-témoignages à nous, eh bien, le Seigneur trouve une solution. Alors, la solution, ce n'est pas celle que l'on pense immédiatement. Ce n'est pas celle qui nous vient à l'idée. Ce qui nous vient à l'idée, c'est sanction, discipline, réforme, transformation par les changements de structure, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein, mais ce n'est pas ça le problème. Pas ça d'abord le problème. Le problème, c'est des chrétiens évangéliques. C'est qu'il faut des chrétiens évangéliques. Qu'est-ce qu'ils ont fait Saint François et Saint Dominique? Ils ont d'abord commencé à vivre en chrétien. Alors chacun dans leur vocation, hein. Saint François était religieux et diacre, Saint Dominique religieux et prêtre. Mais, vous savez, c'est aussi à cette époque-là que sont nés ce qu'on appelle les tiers ordres, qui sont des branches laïques, hein, pour les laïcs qui continuent à vivre dans le monde. Saint Louis, roi de France, était du tiers-ordre de Saint-Dominique. Ça énervait la cour, parce qu'il vivait pauvre, ça énervait tout le monde. Mais en tout cas, il cherchait à vivre l'Évangile, autrement dit, il cherchait à être saint. Et en fait, la vraie solution, toujours, à toute époque, c'est pas les grands discours, les grands débats, même si je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait, mais la vraie solution, la solution profonde, c'est la sainteté. Il n'y a que comme ça qu'on relève l'Église, que comme ça qu'on soigne les blessures de l'Église. Il n'y a que de cette manière-là que les choses peuvent avancer vraiment selon la volonté de l'Esprit-Saint. De la même manière que dans une église qui s'effondre, eh bien, on va... Alors ça, je reprends ça de Monseigneur Aupetit récemment dans plusieurs de ses interventions, mais entre autres son homélie là, qu'il a fait à Notre-Dame de Paris. Enfin, il y a deux idées que je reprends de Mgr Aupetit. Cette première idée, c'est que les pierres de l'Église, bien, quand on veut restaurer une Église, bien, on va enlever les pierres défaillantes et on va en sculpter des nouvelles pour les poser. Et de la même manière, nous sommes membres de ce temple, hein, nous sommes des pierres dans ce temple, eh bien, nous sommes invités à devenir ces nouvelles pierres sculptées, hein, et que le Seigneur va mettre dans son Église pour la reconstruire. Donc il a besoin de nous. C'est vraiment cela, il a besoin de nous. Et le temple, l'Église, est un symbole de ce que nous sommes et que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de ces pierres, nous avons besoin de pierres de fondation, besoin de pierres de pavement, de pierres dans les murs, de pierres sculptées, donc de saintetés diverses et variées. Mais il faut ces saintetés. S'il n'y a pas ces pierres, si le Seigneur n'a pas la possibilité de sculpter des pierres, on pourra toujours discuter, on pourra toujours s'entretenir, il ne se passera rien, et l'Église continuera à s'effondrer. Hein, s'il n'y a que des gens pour dire ce qu'il faut faire et pour rien faire. Voilà. Voilà. Et la deuxième image, qui est donc du symbole liturgique, hein, à proprement dit, c'est qu'il explique dans une autre intervention que les cathédrales Notre-Dame, comme toute église, est bâtie pour le Seigneur. Elle est faite pour abriter le Seigneur. Et que finalement, c'est pour le tabernacle qu'on construit ces grandes églises. Pour que le peuple se rassemble auprès du tabernacle. Pour que le peuple se rassemble auprès du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il montre l'essentiel, le cœur, que notre vocation première, vocation de tout homme, Et donc notre vocation de chrétien, mais de vocation de tout homme, c'est finalement rencontrer Dieu et de l'adorer. C'est ça notre vocation. On a été créé pour ça, pour louer. Mais louer, vous savez, les protestants évangéliques, ils disent, quand ils parlent d'adoration, ils parlent de louange. Et c'est pas un non-sens. Adorer, c'est louer le Seigneur, c'est rendre grâce. En tout cas, pour mettre le Seigneur au centre. Et les églises, nos aïeux ont construit des grandes églises. Alors, cette église, c'est un peu particulier, parce qu'elle a été financée par l'État. C'est une époque particulière avec Napoléon. C'est d'ailleurs lui qui a supprimé le jour férié de la fête de Dieu. Hein, donc, tout n'est pas... Hein, parce qu'avant, c'était jour férié, ce jeudi-là. On faisait les processions ce jeudi. Voilà. Mais en tout cas, nos aïeux ont construit les églises. Alors, la majorité des églises, hein, celle-ci est un peu une exception, mais la majorité des églises a été construite par les deniers des gens très simples. Hein, il y a bien sûr quelques gens riches qui donnaient davantage, mais il y a beaucoup de gens simples qui donnaient beaucoup, hein, comme l'obole de la veuve. Et puis qui mettaient aussi, qui donnaient du bois, enfin qui participaient à cette construction, et donc on a construit ces églises pour manifester l'amour qu'on avait pour le Seigneur, l'amour qu'on avait pour le Seigneur en particulier dans l'Eucharistie, hein, pour nous catholiques et les orthodoxes aussi pareil, hein, eux c'est la divine liturgie mais avec l'Eucharistie au centre, hein, qui est de la même manière, qui est en permanence dans le Saint des Saints, là, dans le sanctuaire, et qui est au-dessus de l'autel, qui n'est pas vénéré de la même manière. Hein. Il n'y a pas la fête de Dieu, hein, parce que, voilà, que comme nous. Mais ils n'ont pas eu la même histoire après le schisme d'Orient, d'Occident. Eh bien, chez nous, on s'est posé la question de l'Eucharistie, chez eux, jamais. Eux, ils croyaient en l'Eucharistie, pas de problème. Chez nous, on s'est dit, oui, mais l'Eucharistie, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas complètement vrai. Donc, voilà, on a commencé à phosphorer. Donc, il a fallu que l'Église précise sa pensée, c'est ce qui s'est passé, et donc, et que le Seigneur intervienne. Hein, hein, avec Sainte-Germaine de Cornillon, qui en Belgique, a eu cette apparition où Jésus demandait que l'on institue la fête de Dieu. De la même manière que la fête du Sacré-Cœur est demande explicite de Jésus, de la même manière que la fête de la miséricorde, du dimanche de la miséricorde, c'est une demande explicite de Jésus. Il y a un certain nombre de fêtes liturgiques comme ça. Et donc le Seigneur intervient pour encourager son Église et pour dire oui, c'est le bon chemin et je vous demande de faire une fête parce que sinon on risque de perdre le sens de l'Eucharistie. Toujours est-il que nos aïeux avaient le sens de l'Eucharistie et les églises en sont les témoins. Hein, mais en sachant bien, encore une fois, que ces églises sont que le modèle de ce que doit être l'Église. Alors que c'est vrai que quand elles tombent en ruine, nos églises, c'est un modèle qui fait de la peine. Mais quand on les rénove, eh bien, il y a de l'espérance. Et c'est le cas ici. Puisqu'on est en train de rénover l'église, en commençant par la sacristie. Je me suis dit, quelle symbolique on peut trouver à cette idée. On commence par restaurer la sacristie. Ben, c'est là où on se prépare. Même si tous les chrétiens ne passent pas à la sacristie, et beaucoup y passent, les enfants de cœur, ils représentent les baptisés, hein, puisqu'ils prennent leur robe blanche. C'est là-bas qu'on se prépare. Donc, on peut dire, c'est la restauration cachée qui prépare la restauration de l'édifice tout entier, de l'église tout entière. Toujours est-il que cette préparation, c'est la sainteté qui nous donne, qui est la véritable préparation. Et comme dit Léon Blois, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, il n'y a qu'une tristesse en ce monde, c'est de ne pas être saint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La question c'est ça, la question c'est de dire, Est-ce que vraiment la sainteté est une affaire désirable? Est-ce que je la désire vraiment ou est-ce que j'ai d'autres désirs? Voilà. Alors, il y a deux obstacles. L'obstacle de ceux qui se disent se disent « Bon, ce qui est important, c'est que je sois sauvé. Et puis la sainteté, bon, ben voilà. Bon, en fait, quand on est sauvé, quand même, on est un peu sanctifié, hein, parce que sinon, on n'est pas sauvé. Mais le Seigneur ne nous demande pas le niveau bas. Il ne nous demande pas... bien sûr qu'il faut... c'est la première étape, hein. Quand on se convertit, on demande le baptême pour être sauvé. Voilà, ça c'est clair. Pourquoi demandez-vous le baptême? Non, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi vient demander les catéchumènes. On aura encore dimanche prochain une qui va le demander. Et puis ensuite, que vous apporte la foi? La vie éternelle. Donc le salut. C'est clair, c'est comme ça. Ça commence par là, premier pas. Mais quand on reçoit le baptême, on reçoit un appel. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. On rentre dans la vie ecclésiale, par le baptême, dans la vie divine, mais après, on reçoit un appel, et cet appel, c'est être des saints. Hein? Donc le Seigneur ne nous demande pas simplement de nous contenter d'un minimum. Hein? Parce que c'est quelque part, on pourrait presque dire... Alors, presque dire que c'est un peu égoïste. Hein? Je me sauve, et puis après, pour le reste... Alors, la sainteté, de fait, la sainteté... « Attirez-moi, nous courons, dit Thérèse de Lisieux, en reprenant une parole des Cantiques des Cantiques. La sainteté entraîne le monde. Une âme qui s'élève, élève le monde, dit Thérèse d'Avila. Hein, quelquefois, on se dit, mais comment je peux aider à reconstruire l'Église? Comment je peux aider à sauver le monde qui va mal? Eh bien, j'avance dans la sainteté. Donc la première tentation, c'est de se contenter... simplement du minimum, de dire je vais me sauver, puis après, tant pis pour les autres, hein, ce sera déjà pas mal. Voilà. Et de ne pas aspirer à la sainteté, c'est dommage, parce que c'est la meilleure aventure qui soit. Il n'y a pas plus belle aventure. Il y en a qui parcourent le monde aujourd'hui, c'est très à la mode. On voyage dans le monde entier. C'est très bien, enfin, moi j'ai rien contre, même si c'est, l'empreinte carbone est terrible. Mais sinon, bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, une fois qu'ils ont parcouru le monde et quand ils sont sur leur lit de mort, ils ne vont rien emporter, hein. Seule la sainteté va... ils emporteront quelque chose, c'est la sainteté. C'est seulement la sainteté. Là, il n'y a que ça qui vraiment vaut la peine d'être recherché. Hein, et voilà. Donc le premier obstacle, c'est ça. Le deuxième obstacle, c'est « je ne suis pas capable ». La sainteté, ce n'est pas pour moi. Alors ça, c'est la grande tentation. La tentation, même, je dirais, des chrétiens fervents. Les chrétiens fervents, ils commencent à voir leur misère, ils se disent, puis oh là là, puis j'y arrive pas, ça avance pas, je piétine, même je régresse, parce que quand on est bien chrétien fervent, on régresse en fait. Enfin, on a l'impression de régresser, parce qu'on voit mieux les affaires. Donc on s'inquiète, on dit, c'est pas, et finalement c'est pas pour moi. Je me souviens quand j'avais 20 ans, je partais avec une jeune fille qui dit, ouais, je veux bien être sainte, mais pas une grande sainte, je pourrais jamais. Eh bien non. Alors moi, je l'appuie sur deux choses. C'est que je l'appuie sur Thérèse de Lisieux, qui a été la première finalement à dire « Le salut, aspirer au salut ne suffit pas. Il faut aspirer à la sainteté. Il faut non seulement être sauvé, mais vouloir être des saints. » Et elle dit « Je ne veux pas être une sainte à moitié, je veux être une grande sainte. » Et il faut avoir cette audace-là. On a tous de l'orgueil en nous. Eh bien, qu'on mette notre orgueil là-dedans. En sachant que le parcours est particulier, parce que pour être grand, il faut être petit. Donc ça, c'est pas moins rigolo, ça brille moins. C'est moins clinquant, mais mettons notre orgueil dans cette aspiration, aspirons à cette grande sainteté. Osons espérer des grands saints. Il n'y a pas, c'est pas de l'orgueil, parce que Thérèse y aspirait, et parce que l'Église nous y invite. Alors, c'est vrai que le Concile Vatican II, quand elle parle de l'Église, justement, Concile Vatican II parle de l'Église, au cœur de la constitution dogmatique sur l'Église, il y a ce fameux chapitre sur l'appel universel à la sainteté, qui est dans la continuité du réveil spirituel qui était en train de se produire avec Thérèse de Lisieux, et qui rappelle que finalement tout le monde appelle universel à la sainteté, tout le monde est appelé à la sainteté dans tous nos états de vie. Tous nos états de vie sont grands et beaux, hein, le baptême en premier lieu. Toutes les vocations sont belles, mais surtout, elles sont belles si on les vit dans une dynamique de sanctification et de sainteté. Et donc, je vous relis simplement au chapitre 5, donc au numéro 40, l'appel universel à la sainteté. Le Maître divin, et modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et à chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté de vie dont il est à la fois l'initiateur et le consommateur. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Et en effet, à tous, il a envoyé son esprit pour les mouvoir de l'intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur intelligence et de toute leur force. Et aussi à s'aimer mutuellement comme le Christ les a aimés. Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein gracieux, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus, par le baptême de la foi, fils de Dieu, participant de la nature divine, et par là même, réellement saints. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver, l'achever par leur vie. Je vous disais tout à l'heure, par le baptême, nous sommes déjà sanctifiés. On est vraiment purifiés, hein. Sinon c'est qu'on ne croit pas au sacrement. De même quand vous confessez, de même quand vous recevez l'Eucharistie avec une attitude juste, une bonne attitude, eh bien, il y a une sanctification qui se produit. Mais il nous faut la conserver, parce qu'on peut la perdre dès qu'on retourne à notre place à la communion. On peut la perdre dès qu'on sort l'Église en parlant avec nos frères et sœurs et en disant, je dis ça au hasard, hein, du mal de son prochain, mais ça arrive jamais, mais voilà, de l'homélie. Non, je blague. Vous avez le droit de critiquer l'homélie. C'est le seul truc que vous avez le droit de faire. Mais, voilà, on peut perdre très vite la grâce reçue. Parce que c'est pas magique. Hein, parce que le Seigneur se donne, mais ne s'impose pas, ne force pas la porte. Et sinon, on ne cherche pas à la conserver, comme dit le Concile, et à l'achever par leur vie. C'est-à-dire à en vivre tous les jours et à chercher à le... à laisser ce travail de conversion se faire en nous. Qui est encore une fois, on le devine, c'est l'œuvre de Dieu d'abord, mais avec notre acquiescement, avec notre fiat comme Marie, c'est pour ça que Marie c'est une aide, notre fiat et notre collaboration réelle. Voilà, et j'en parle pas, mais évidemment que l'adoration eucharistique nous aide à faire ce travail. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. C'est l'apôtre qui les avertit de vivre comme il convient à des saints, hein, saint Paul, et de revêtir comme des élus de Dieu saints et bien-aimés des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, hein, à l'épître aux Colossiens. Portant les fruits de l'Esprit pour leur sanctification. Cependant, comme nous nous rendons tous fautifs en bien des points, nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière « Pardonne-nous nos offenses ». Pour aspirer réellement à la sainteté, il faut vraiment croire à la miséricorde de Dieu. Parce qu'en fait, sinon on se décourage. On se décourage. Quand on contemple l'Eucharistie, à l'adoration eucharistique, quand on contemple cette miséricorde de Dieu qui nous sauve, mais aussi ce Dieu qui se fait proche de nous parce qu'il ne veut pas nous laisser, il ne veut pas nous abandonner. Hein? Et donc, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence, du pardon, est un sacrement indispensable pour devenir saint. Hein? C'est vraiment c'est le sacrement de la vérité et le sacrement, c'est un sacrement de guérison. Même si c'est parce que c'est difficile à vivre, de toute façon, ce sacrement-là, c'est un sacrement qui est comme une opération chirurgicale à chaque fois. Hein. On enlève les tumeurs cancéreuses. Donc automatiquement, c'est pas rigolo. Hein. Ah oui. Déjà, faut montrer où c'est, faut trouver où c'est le mal, puis après, faut l'enlever. Donc voilà, c'est pas un sacrement facile. Quand il devient facile, c'est parce qu'on a un petit peu l'habitude, on fait un traitement. Une chimio un peu dans la durée, régulière, mais ça reste un sacrement difficile et c'est normal. Puis c'est normal qu'on pleure son péché, c'est normal qu'on pleure de ne pas se convertir plus vite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème à ça. Seulement, c'est un sacrement où on croit en la miséricorde, c'est-à-dire on est sûr que Jésus, il nous sauve et c'est une réalité et il n'y a jamais de quoi désespérer. Donc c'est vraiment un sacrement qui donne le courage, si c'est bien vécu. Voilà, pardonne-nous nos offenses, cette prière du Notre Père. Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne, à la perfection de la charité, s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état et leur forme de vie. Pardon. Et leur forme de vie... Attendez, excusez-moi. Quel que soit leur état et leur forme de vie. Dans la société terrestre, elle-même, cette sainteté contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence. Voilà. Les fidèles doivent s'appliquer de toute leur force, dans la mesure du don du Christ, à obtenir cette perfection, afin que marchant sur ses traces, il se conforme à son image, accomplissant en tout la volonté du Père. Ils soient avec toute leur âme voués à la gloire de Dieu au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu s'épanouira en fruits abondants, comme en témoigne avec éclat à travers la vie de tant de saints de l'histoire de l'Église. Voilà. Donc l'appel à la sainteté, c'est pour toutes les conditions de vie. Ça, je vous l'ai déjà dit. Très important à retenir. Il n'y a pas une condition de vie qui est, moi je dirais, la seule condition de vie qui pourrait être un peu problématique, c'est celle où il n'y a pas de croix. Parce qu'en fait, enfin, si tant que ça existe, tant est que ça existe, j'en sais rien. Mais parce qu'en fait, quand il n'y a pas de croix, c'est plus compliqué de vraiment se jeter complètement dans les bras de Dieu et de laisser faire vraiment le Seigneur. C'est plus compliqué. Hein. C'est même impossible, je crois. Donc voilà, donc normalement il y a quand même des croix un petit peu pour tout le monde à un moment ou l'autre. Mais c'est vrai que pas de croix, quelle croix, ça lui m'arrive mon fort, hein. C'est un peu. Voilà. Donc en fait, les épreuves de la vie, les difficultés, les découragements, enfin les découragements, c'est un piège, hein. Mais les tentations de découragement, tout ça, c'est des bénédictions pour avancer à la sainteté. Et l'Eucharistie est un véritable soutien. Je vous ai parlé du sacrement de réconciliation, mais l'Eucharistie est un véritable soutien qui nous relève. C'est la nourriture des forts, mais c'est la nourriture des enfants, des faibles, hein, des petits. Et dans l'Eucharistie, nous avons vraiment le Seigneur qui est là à nos côtés en permanence, qui ne veut pas qu'on se décourage et qui nous donne l'exemple de la sainteté. Parce que je vois que le temps passe, donc je vais avancer un petit peu. Qui nous donne l'exemple de la sainteté. Dans l'Eucharistie, vous avez l'exemple de la sainteté. Contempler l'Eucharistie, contempler Jésus dans l'Eucharistie, c'est vraiment découvrir quels sont les grands axes de sainteté que le Seigneur veut pour tout. Et en particulier, l'humilité, l'abaissement, la pauvreté. Alors Thérèse de Lisieux le montre très très bien, la sainteté pour tous, c'est la sainteté des petits. Hein. Et la grande sainteté, hein, ça ne veut pas dire que c'est la petite sainteté au rabais de gens qui ne sont pas vraiment saints. Non, c'est des vrais saints, c'est des petits qui sont saints. Parce que les petits, grâce aux croix qu'ils ont rencontrées, parce qu'ils se sentent faibles pour la porter cette croix, grâce à toute leur vie où ils sentent incapables, ils se jettent dans les bras du Seigneur. Et ils acceptent cette pauvreté, cet abaissement, cette pauvreté. Ils acceptent d'être pauvres. Alors, il y a deux degrés hein, que Jésus nous montre. Jésus, il est Dieu. Donc, quand il est humble, il se présente à nous comme Dieu. Il est humble déjà. Jésus, en se présentant à nous comme Dieu, est humble. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il est, normalement. Premier degré de l'humilité auquel nous avons du mal, nous, à y arriver. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains. Premier degré d'humilité, c'est d'être ce que nous sommes, d'accepter nos qualités, nos défauts, ce que l'on est. Nous sommes des êtres humains. Et bizarrement, nos souffrances et nos péchés sont liés au fait qu'on n'accepte pas ce qu'on est, on veut être toujours différent et souvent plus que ce qu'on est. On voudrait briller davantage. On voudrait dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Donc se prendre à la place de Dieu. Hein. péché d'orgueil. On voudrait avoir des telle ou telle qualité. Enfin, on sait mieux que Dieu ce qu'il faudrait qu'on soit, quoi. Et en fait, ça nous fait souffrir de mauvaises souffrances, hein, des souffrances qu'il faut perdre, hein, il faut abandonner tout ça. Il faut lâcher prise là-dessus. Et donc, pour pouvoir entrer dans une attitude de sainteté qui soit celle que le Seigneur veut pour nous, hein, cette sainteté des pauvres, réelle, hein, et la sainteté donc du pauvre, c'est l'exemple même du psaume 130, « Je tiens mon âme égale et silencieuse dans tes bras », enfin voilà, « dans les bras du Seigneur, je me tiens, voilà, et quel que soit ce qui m'arrive, je ne crains aucun mal, je suis vraiment... » Psaume 120, le psaume 22 aussi, hein, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien hein, », voilà. C'est vraiment cette attitude, ça c'est ça le saint, quel que soit ce qu'il fait. Le saint, c'est celui qui est vraiment dans les bras de Dieu, parce que s'il est humblement à sa place dans les bras de Dieu, eh bien, le Seigneur pourra faire de lui ce qui lui plaira. Et donc, il fera de grandes choses. Encore une fois, hein, c'est pas ce qui va être dans les journaux, c'est pas même dans le journal catholique en Vendée, hein. C'est pas ça, mais c'est aux yeux de Dieu et dans une fécondité spirituelle qui nous dépasse totalement. Donc ça, c'est le premier degré, l'humilité. L'humilité, rien que ça, c'est difficile. Mais après, il y a un deuxième degré que Thérèse de Lisieux montre, et que la sainteté montre, en fait, et que Jésus montre dans le Saint-Sacrement, dans le mystère de l'incarnation, c'est l'abaissement. Donc Jésus, il est humble en étant Dieu, hein, le Verbe est humble en étant Dieu, et il s'abaisse volontairement. Mystère de l'incarnation, mystère de la croix, et beaucoup de mystiques, dont Thérèse de Lisieux, diront mystère de l'Eucharistie, les trois abaissements du Seigneur. Et en fait, ça nous montre un exemple, c'est-à-dire que non seulement il nous faut être humble, ce qui est déjà pas mal, hein, mais il faut chercher la dernière place, il faut chercher à descendre encore plus bas, chercher à oser choisir la pauvreté, tel que saint François a pu le faire, tel que tous les saints, en fait, l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils se cherchent plus eux-mêmes. Ils cherchent à servir. Ils cherchent à laver les pieds. C'est le lavement des pieds. Ils ne cherchent plus les grandes choses. Et ça donne, cette attitude-là, donne une vraie disponibilité. Tel que l'Eucharistie, quel Seigneur dans l'Eucharistie qui est complètement à disposition, hein. Combien, je ne veux pas être alarmiste parce que ça n'a pas de sens, mais combien de profanation de l'Eucharistie parce qu'on ne reconnaît pas vraiment sa présence et que même les prêtres font, hein. Je me mets en premier dedans parce que simplement je suis insensible à sa présence, je suis indifférent, un peu habitué, tout ça. Et le Seigneur, pourtant, il se laisse faire. De la même manière, la sainteté, on se laisse faire par le Seigneur. On est complètement donné. Non seulement on reconnaît ce que l'on est dans l'humilité, donc on accepte notre position dans l'humilité, on se met dans ses bras. Mais en plus, on choisit la dernière place. C'est si difficile. On n'a jamais envie. En général, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en général, on choisit la dernière place une fraction de seconde. À un moment, on se dit, tiens, là, oui, moi, je prends vraiment la dernière place. Puis finalement, on n'est pas mécontent qu'on vienne nous chercher pour prendre une place. Ça m'est arrivé récemment, là, parce que la dernière ordination qu'il y a eu, j'ai été à la sacristie des prêtres et des diacres, voilà, et puis on est venu me chercher, on me dit, non, toi, tu vas prendre une chaise, tout ça, flatté. Parce qu'en fait, voilà, chasser le naturel, il revient au galop, hein, et la conversion, elle est compliquée, hein, elle est longue. Et donc, en fait, choisir la dernière place, voilà, c'est vraiment, il faut y aspirer comme étant une bonne démarche, une démarche de très grande sainteté. Et c'est ça qui va sanctifier le monde, qui va soulever le monde, qui va transformer le monde. Et parmi nous, certains font des choses visibles et d'autres font des choses invisibles. C'est ceux qui font les choses visibles, ce n'est pas les grands automatiquement. Ils peuvent être complètement grands parce qu'ils peuvent être profondément humbles et pauvres intérieurement. Donc des vrais saints. Ils peuvent être grands. Tout à fait. Mais ce n'est pas automatique. Les plus invisibles peuvent être des très 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 grands saints, qu'on saura qu'au ciel, qui ne seront jamais canonisés parce qu'on ne les aura pas remarqués. Une sainteté invisible, mais très réelle et très féconde. Alors le pape François en parle, hein. Il parle des saints canonisés, puis il dit tous les autres. Puis on fête ça à la Toussaint, qui est une des fêtes liturgiques que Napoléon nous a gardées comme jour férié. Quand même. Et avant, il y en avait une dizaine, d'après ce qu'on m'a dit, puis maintenant, je ne sais pas, il y en a quatre ou cinq. Il y en a quatre, je crois. Quatre Noël, enfin voilà, pas beaucoup. L'Ascension, bon. Alors, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Je voudrais simplement terminer en parlant de ce que nous parle le pape François sur les obstacles au chemin de sainteté. Premier obstacle, c'est l'acédie, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont comme nous là, plutôt bien, des gens bien chrétiens, tout ça, qui prient, qui machin. Puis petit à petit, pout, ils vivent les choses un peu ils perdent le goût des affaires et ils ne réagissent pas assez vite et ne cherchent pas à réveiller le goût des choses spirituelles, à réveiller le goût de Dieu, à réveiller le désir de sainteté, à réveiller le désir de servir les autres, de servir les frères. Et donc ils sont là, ils ronronnent en fait dans leur truc, et puis petit à petit ça peut aller très loin, parce que peut-être à la fin on peut même finir par arrêter la pratique religieuse, parce qu'on voit plus trop l'intérêt. Hein, mais ça prend, c'est tout doucement, c'est assez subtil. Voilà. Donc l'acédie, c'est un piège, hein, c'est une maladie de l'âme, une maladie classique, hein, il y a des doctorats qui ont été faits sur ce sujet. C'est les moines qui développent ça, parce que ça se développe beaucoup dans le milieu monachiste. Mais auprès des chrétiens aussi, tout chrétien peut se développer. À partir du moment où on cherche à mettre en place une vie spirituelle, on peut à un moment être atteint par l'acédie, cette maladie où on ronronne, et finalement on n'a plus d'ambition et de désir surtout. Alors, je précise toujours, avoir le désir du désir, c'est déjà bien. On est sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on n'a plus le désir de la sainteté, plus le désir d'aimer Dieu, d'adorer, tout ça. Par contre, j'ai le désir d'avoir le désir. Ben, c'est bon. Parce que ça peut être aussi un combat spirituel. Donc le désir du désir, c'est un bon chemin. Par contre, quand on n'a plus le désir du désir, oh là là. D'ailleurs, je pense qu'on ne vient même pas là. Ben, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, l'acédie, premier obstacle. Ensuite, le deuxième obstacle, c'est la médiocrité acceptée. Une médiocrité, on se dit, de toute façon, je suis médiocre. Alors, on se dit par humilité, je suis plutôt pas bon, plutôt très moyen. Et puis, je l'accepte. Donc, finalement, je ne cherche pas à avancer. J'accepte ma situation. On n'a plus d'ambition spirituelle, plus d'ambition de sainteté, alors que c'était la plus belle chose qu'il pouvait avoir. Donc ça, c'est un piège. Alors, c'est tout à fait présent dans l'acédie, hein, mais ça peut être présent aussi comme ça. On se dit, finalement, moi, je ne suis pas très bon. Donc je vais accepter, je m'accepte comme je suis, mais je ne bouge pas. Je ne cherche pas à avancer. Voilà. Troisième élément, c'est le piège dont j'ai déjà parlé un petit peu. Le grand piège, c'est le découragement. Il faut fuir le découragement comme la peste. C'est la maladie. Et je pense que dans notre monde notre monde manque d'espérance. Justement, le découragement est hyper présent partout. Et dans le milieu chrétien, il y est particulièrement. On se décourage sur plein de trucs. On lance plus rien parce qu'on se dit ça va pas marcher. Le monde est comme il est, vous savez, ça marchera pas. Et puis on fait plus rien. Et puis même quand ça marche pas, on se décourage, ça n'a pas marché, donc ça va toujours pas marcher, on va pas faire autre chose. Et c'est un grand piège. Et pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Et Thérèse de Lisieux, elle a des paroles assez sévères là-dessus. Elle dit, ça aussi c'est de l'orgueil. Le découragement, ça aussi c'est de l'orgueil. Parce qu'elle dit, pourquoi on se décourage? Parce qu'on est tellement sur notre œuvre personnelle, on s'appuie tellement sur nos propres forces, comme si c'était que nous qui faisions l'affaire, on ne s'appuie pas sur Dieu. C'est-à-dire qu'on prend la place de Dieu, et donc finalement, quand il y a un échec, on se décourage. Alors que l'échec peut être un chemin de croissance spirituelle, que voilà, le Seigneur va s'en servir, etc. Et donc, voilà. Donc, prenons conscience que c'est l'orgueil, donc c'est le grand péché, hein, et qui parfois s'insinue dans les gens bien spirituels, s'insinue sous forme de découragement. On se dit, ben, j'y arriverai jamais. Voilà. Et donc, fuyons vraiment cette maladie comme la peste. Et faisons comme Thérèse de Lisieux. Une des raisons pour lesquelles Thérèse de Lisieux a réussi à vraiment être sainte en très peu de temps, c'est que à sa première communion, résolution de première communion, c'est elle dit, elle écrit un petit papier, je ne me découragerai pas. Et sur son lit de mort, elle dit, c'est vrai que je me décourage pas facilement. Donc là, entre les deux, il y a un chemin qui a été fait. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est pas les réussites ou les échecs, hein. C'est pas de compter combien de fois je tombe, combien de fois non. Hein, la Thérèse d'Avila dit, hein, le saint, c'est pas celui qui tombe jamais, c'est celui qui se relève vite. Thérèse d'Avila. Voilà. Et donc, le pape François, lui, souligne deux ennemis subtils de la sainteté. Deux ennemis subtils. Première chose, le gnosticisme, donc des gros mots. Donc, où? Alors, plusieurs points. Le gnosticisme, le subjectivisme de la foi. C'est-à-dire, ma foi, c'est ce que je ressens. Si je pense, je crois ce que j'ai envie de croire, je crois ce que j'ai ressenti, tout le reste. Et finalement, le message de l'Église, j'ai plus confiance en l'Église, en fait. De toute façon, il y a un vrai problème dans notre monde aujourd'hui, c'est que, bon, les contre-témoignages sont pléthores dans l'Église, mais c'est vrai qu'il y a un problème d'ecclésiologie grave. On n'a plus confiance dans l'Église, on ne croit plus que l'Église est une œuvre divine, et que finalement, malgré les grands pécheurs qui sont dedans, le Seigneur la protège. Et la fait traverser l'histoire. Pourtant, c'est le cas, on le voit. Mais, voilà. Et donc, le subjectivisme de la foi. Alors, le gnosticisme, c'est une forme c'est une forme, on s'appuie sur des connaissances, et on ne vit que, enfin, il n'y a que ces connaissances cachées que l'on découvre, et qui nous donnent d'être, donc c'est ce que l'on croit, nous, être bien, être vrai, qui est vrai, et le reste, ben voilà, on ne l'accueille pas. Voilà. Et donc, dans ce gnosticisme, c'est croire que la sainteté, c'est une quantité de connaissances. Par exemple, on va faire plein d'études, et ceux qui ont fait des grandes études, qui brillent par leur savoir, par leurs grandes conférences, très intéressantes, je sais que ce n'est pas mon cas, donc... mais voilà, et bien ceux qui brillent, ils disent « Oh, c'est un saint !» Ben non, ce n'est pas un saint du tout. Et on a plein d'exemples, même dans l'histoire récente de l'Église, de gens qui faisaient des super conférences, et qui était loin d'être saint. C'est pas donc voilà. Donc ne nous laissons pas impressionner par ça, cette côté brillant de la connaissance. Par contre, évidemment, il faut se former. Hein, je disais que saint Dominique, lui, il était parti pour prêcher auprès des fidèles, pour former les chrétiens, pas que le clergé, parce que saint Dominique, il a jamais fait des séminaires. Hein. Il a formé le chrétien. Et donc, il faut se former. Mais ce n'est pas la connaissance qui fait de nous des saints. On en a besoin, il faut comprendre, pour aimer, c'est saint Thomas d'Aquin, un dominicain qui dit ça, pour aimer, il faut connaître qui on aime. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on apprend à le connaître, on étudie, et je vous encourage vraiment à étudier. Mais par contre, n'étudiez pas pour briller, pour intéressant, et puis pour faire croire qu'on est saint par des... quantité de connaissances, il s'agit là d'une superficialité vaniteuse, dit le pape François. Superficialité vaniteuse. Voilà. Et puis aussi, un autre piège, donc toujours dans cette catégorie du gnosticisme, c'est on cherche à apprivoiser le mystère, à contrôler Dieu. Autour de l'Eucharistie, c'est exactement ce qui s'est produit dans l'histoire maintes et maintes fois. L'Eucharistie, mais aussi le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus, l'Eucharistie, c'est encore plus visible. On a toujours cherché à le mystère était trop grand, trop étonnant, et on a voulu le contrôler. On a voulu le saisir. On a voulu le comprendre totalement. Or, le terme mystère, qui est un terme grec, qui est l'origine du mot sacrement aussi, hein, qui est traduit sacrement en latin, eh bien, mystère, ça veut dire ce qui est caché se dévoile, mais c'est un peu comme l'iceberg. Toute la partie cachée qui continue d'être cachée, qu'on va essayer de dévoiler, parce que c'est bien de chercher à comprendre par les études. Mais il faut accepter que le mystère de Dieu nous échappe. Et le mystère de la sainteté, exactement ça aussi, hein. Le mystère de la sainteté, il faut accepter que ça nous échappe. Il ne faut pas contrôler sa propre sainteté, parce que c'est voué à l'échec. La sainteté se développe que si on est dans le don total à Dieu, et voilà. Voilà, le deuxième danger, c'est le pélagianisme. Alors, le pélagianisme, c'est l'hérésie de Pélage, où il considérait qu'on pouvait se sauver par nos propres efforts. Que finalement, la grâce de Dieu n'était pas nécessaire vraiment, il suffisait de faire quelques efforts et on arrivait au salut. Et donc, c'est un piège, c'est un danger. Alors, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la sainteté, en fait, je m'aperçois que ça démonte le pélagianisme, parce que à partir du moment où on considère que c'est l'humilité et l'abaissement qui est le secret de la sainteté, on ne peut pas être pélagien vraiment. Alors, donc on compte trop sur soi-même, et même si parfois on prie, même si on est des priants, on peut compter sur soi pour parvenir à la sainteté. C'est-à-dire qu'on fait des efforts en se disant « c'est par mes propres efforts que je vais y arriver ». Enfin, même si on ne se le dit pas, même si on dit « oui Seigneur, tu vas m'aider, aide-moi », n'empêche qu'on est dans cette attitude. Ce qui fait qu'on se trouve régulièrement en échec et on est tenté par le découragement. Parce qu'on se dit « mais mince, ça aurait dû marcher ce coup-ci, j'ai prié en plus ». Or, voilà, nos efforts, ce n'est pas fait pour réussir, c'est fait pour montrer qu'on veut que le Seigneur nous sanctifie. Ce qui fait qu'on peut faire des efforts dans un domaine et progresser dans un autre. Parce que finalement, la grâce, elle agit comme elle veut. C'est comme dans l'image de la petite Thérèse, de l'enfant, du petit enfant qui essaie de monter les marches, qui sait qu'il ne peut pas y arriver, il va essayer de monter, et Jésus va le voir, il va venir le chercher. C'est exactement ça, nos efforts. Pas plus que ça. Mais par contre, si on ne montre pas qu'on désire monter, le Seigneur se dit « j'insiste pas, il n'a pas l'air de vouloir, je ne vais pas le chercher ». Donc nos efforts, c'est ça. C'est le primat de la grâce, hein, vraiment. Donc dans le pélagianisme, on fuit les fragilités humaines. En soi-même, on fuit nos fragilités, c'est-à-dire on a... quand on voit qu'on est blessé, qu'on est fragile, qu'on est faible, ben, c'est un peu catastrophique quelque part, quand on est un peu pélagien. Qu'on dit, mais moi, je ne serai jamais bon, quoi. Ben mince, alors si je ne suis pas bon, comment je vais faire pour devenir saint? Et donc, on peut se décourager. Et puis aussi, c'est souvent plus subtil, mais on fuit la fragilité des autres. Parce que le frère, finalement, on considère qu'on devient un peu élitiste. Alors parfois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas servir nos frères qui ont besoin d'aide, mais on va le servir plus pour se donner bonne conscience ou bien pour faire un peu de pélagianisme que pour vraiment s'intéresser à mon frère. Donc là, on n'est pas sur... C'est le bon chemin. On fait pas vraiment un véritable acte de charité pur où, justement, on va vouloir laver les pieds, on va vouloir se mettre en dernier et que notre frère, je le considère comme moi. Enfin, c'est un frère comme moi, je suis son frère. Voilà. Donc on fuit les fragilités des autres. Alors, on trouve ça aussi dans certaines volontés d'évangélisation où, parfois... on veut trop ce qui brille, quoi. Enfin, je sais pas trop comment le dire. On veut trop montrer ce qui brille. Et je dis pas qu'il faut pas le faire, parce que je crois que c'est juste, il faut montrer que vraiment Jésus est un sauveur, etc. Mais il faut pas faire que ça. Il faut pas faire que ça. Il faut, parce que c'est finalement le Seigneur qui rejoint les cœurs, il faut aussi oser montrer la misère de ce que nous sommes. Voilà. Ne pas se cacher. Voilà, dans le pélagianisme, dit le Saint-Père, il y a aussi l'obsession de la loi, hein, une sorte de légalisme qui fait qu'en fait, on se dit, si j'applique toute la loi, je suis dans les règles, je suis saint. Donc une sorte d'obsession légaliste qui n'a rien de la sainteté, parce que, comme on le sait, la loi, elle nous est nécessaire, mais il faut bien évidemment dépasser de largement la loi. Jésus, il nous le montre, là, on a entendu ça dans les messes de ces derniers temps. Je ne vais pas être capable de dire un truc, mais enfin bon, il dit, il va aller beaucoup plus loin. On vous demande, on veut te prendre ton manteau, mais donne aussi ta tunique. C'est-à-dire qu'on est plus au-delà, on va bien au-delà de la loi. Saint François, Saint Dominique et tant de saints sont allés bien au-delà de la loi. La petite Thérèse de Lisieux s'est pas contentée de supporter la sœur qui était insupportable. Elle s'est mise à côté. Et à la fin, la sœur, elle a cru que c'était elle la préférée de Thérèse de Lisieux. Vous connaissez l'anecdote, hein, parce qu'après la mort, elle dit « Mais c'est de qui cette sœur ?» dans les écrits de Thérèse, Thérèse parle de cette sœur qui était assez difficile à vivre. Et puis la sœur, elle dit en récréation, elle dit « Mais c'est qui cette sœur dont elle parle, Thérèse ?» Toutes les autres sœurs, elles regardent « Mais en fait, c'est toi !» Et elle croyait qu'elle était la préférée de Thérèse. Donc là, on dépasse allègrement la simple loi. La loi, c'est un cadre, mais bien sûr, évidemment, il faut aller bien au-delà. Et parfois, il nous faut, si on sort, on va vraiment au-delà, eh bien, il y a le Saint-Esprit peut nous inciter à oser dépasser la loi ou transgresser la loi pour certains actes de charité. Donc, bon voilà, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Hein. Faire si on est saint, que si on est saint de loi. Comme ce n'est pas difficile à savoir. Mais on voit ça dans la vie des saints. On voit des choses étonnantes. En tout cas, le pélagianisme peut s'exprimer sous voilà, cette obsession de la loi, voilà, qui nous fait perdre de vue que le but, c'est vraiment d'être profondément charitable et agir sous la motion du Saint-Esprit. Voilà, dans le pélagianisme, il y a l'élitisme, donc qui serait la sainteté pour un petit nombre. C'est-à-dire les meilleurs, le haut de la crème, eh bien, ils vont devenir saints, puis les autres, dans le meilleur cas, du purgatoire, et puis pour les plus sévères, on dit, oh, ils iront plutôt en enfer. J'ai découvert ça il y a peu de temps, c'est qu'en fait, au Moyen-Âge, beaucoup, beaucoup de gens pensaient aller en enfer, même des chrétiens. Et ça faisait partie, le monde tel qu'on représentait le monde au Moyen-Âge, ça faisait partie d'aller en enfer, faisait partie des possibilités complètement évidentes, et que certains disaient, de fait, j'irai en enfer. C'est étonnant. Hein. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je disais ça ? Parce que il faut pas aller en enfer, hein, faut aller au paradis. Mais il faut y aller directement. Hein. Bien sûr, le purgatoire, c'est une invention de la miséricorde, donc c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Mais c'est pas parce que le purgatoire existe que je dis, moi je vise le purgatoire. C'est exactement dire, moi je vis simplement pour être un tout petit saint, voire même juste sauvé. Donc dans ce cas-là, je vais au purgatoire, puis je fais 2000 ans de purgatoire. C'est vachement long, hein, surtout sur la fin. Et puis voilà. Non, on peut aller directement au paradis. Hein. C'est possible de mourir en odeur de sainteté, comme on dit. Mais il faut y aspirer, il faut le désirer. Et puis, voilà. Oui, j'écris une phrase, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave, je saute. Toujours est-il primauté de la grâce. Donc, c'est les deux pièges, hein, gnosticisme et pélagianisme. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, le Saint-Père nous dit qu'il faut aller à contre-courant des idées reçues. Donc, il développe les béatitudes. Je vous invite à lire hein, cette méditation sur les béatitudes. Voilà. La prière, l'adoration. Et puis, il dit les caractéristiques de la sainteté contemporaine. Donc, je vais vous les citer rapidement pour terminer. L'endurance. Donc, c'est contre le découragement, on est d'accord. L'endurance, la patience, tout ça, c'est contre le découragement. La douceur. La douceur, la joie, le sens de l'humour, caractéristique de la sainteté contemporaine, selon le Saint-Père. L'audace et la ferveur. Alors l'audace, dedans on peut... Hein, l'audace, c'est missionnaire, c'est dans le service, c'est la générosité. Et la ferveur, hein, la ferveur spirituelle. Une sainteté en communauté. Ça, c'est quelque chose que c'est-à-dire aujourd'hui, Marthe Robin l'a annoncé, qu'il y aurait des communautés entières qui seraient saintes. Je ne sais pas comment, mais moi je me dis, des paroisses, le curé d'Ars dit ça à la fin de sa vie. Il dit, le cimetière autour de son machin, de son église, pardon, le cimetière autour de son église, il dit, elle est pavée de saints. Le cimetière est pavé de saints, il dit. Il n'y a que lui qui peut dire ça, il n'y a que le prêtre qui peut le dire, c'est parce qu'il a été dans le secret des âmes. Et c'est vrai que les prêtres, on peut témoigner, on sait qu'on a des gens, des saints, des gens qui sont frais cheminement de sainteté, ça on en est témoin, on est discret. Hein. On ne crie pas sur les toits parce qu'on a pitié de l'humilité des gens, on préserve l'humilité des gens. Et puis la prière constante, dit le Saint-Père. Un dernier point, la prière constante, et là je mets volontairement l'adoration dedans, hein, cette attitude d'adoration. On adore le Seigneur à certains moments, dans le Saint-Sacrement, pour pouvoir l'adorer tout au long de notre vie. Hein, puisque, voilà, vivre en permanente adoration du Seigneur, permanente prière. Et puis enfin, voilà, j'ai conclu, j'en ai parlé plus que je pensais, j'ai conclu par dire la clé, rechercher l'humilité est la dernière place. L'humilité, la dernière place, en adorant le Seigneur dans le Saint-Sacrement, qui s'abaisse. C'est ce que j'ai essayé de dire, mais je n'ai peut-être pas dit bien, mais voilà, qui s'abaisse. Voilà. Voilà, merci. Donc j'étais un petit peu plus long, je croyais que je serais plus bref.